présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Ne cherchez surtout pas à savoir. Elle lui dit, pourquoi? Je suis sûre que c'est quelqu'un de très bien. Un chanteur ou quelque chose dans ce genre. Voilà, j'y suis, un comédien. Une chose de ce genre-là, oui, un comédien.
Galien,
surtout ne me dites pas son nom. Je m'appelle Galien et c'est bien suffisant. Elle lui dit, vous avez bien raison. Faites-moi danser. Elle pose sa verre sur la table du buffet. Lui aussi, et il l'amène danser. Il la trouve très belle. La taille bien faite, bien prise, et a de très jolis seins.
Léo !
Il lui dit, vous avez de très jolis yeux. Tu vous ressembles tellement à un enfant que c'en est délicieux. Il lui dit, merci.
Oh, enlève ça immédiatement.
Vous êtes très belle, vous aussi. Merci. Vous êtes très belle, vous aussi. Oh, avec tous mes soucis, j'en doute.
Vous allez le reconnaître.
Vous êtes très belle.
Je ne le vois pas.
Après avoir dansé, elle lui dit, mon mari m'a accompagné, mais il ne pourra certainement pas. Il se fait tard. Pouvez-vous me raccompagner, s'il vous plaît?
Elle lui dit,
mais il n'est pas tard. Si, je suis si fatiguée. Bien. Je vais vous raccompagner.
Avance,
qui sortent du salon. Ils vont vers le vestiaire, qui est une pièce à côté. Galien demande son manteau. Le gros, là. Elle, le sien. Le rose, merci. Et ils sortent, la nuit douce. Il lui dit, la voiture est là, à droite. Ils y vont. Le chauffeur leur ouvre la portière. Galien demande, nous allons où ? Place de l'Étoile. Galien dit au chauffeur, place de l'Étoile, s'il vous plaît. Elle demande à Galien, vous habitez bien, vos bureaux sont bien avenue d'Opéra ? Oui, et place de l'Étoile, moi aussi. Elle lui dit, si un jour j'ai besoin de votre aide, est-ce que je pourrais venir vous voir ? Galien tique et se demande où elle va l'embarquer.
Oui, bien sûr, mais c'est difficile à m'avoir.
J'ai beaucoup de rendez-vous, je voudrais mieux cette commune. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire. Elle lui dit, vous voulez m'aider? Et avec vos rendez-vous? Mais si c'est urgent, je n'ai pas le temps d'attendre un rendez-vous. Galien lui dit, je vous disais ça, c'est simplement pour que vous ne soyez pas surprise, que je vous fasse un peu attendre. Je suis très demandé, vous savez. Les gens du monde entier m'appellent. Elle lui dit, oui, mais moi, il lui dit, vous, je vous prendrai en urgence dès que je pourrai. Elle lui demande, vous n'êtes pas marié? Il lui dit, non, c'est mieux comme ça, parce qu'avec la vie que je mène, ma femme ne serait pas heureuse. Elle lui dit,
elle vous pardonnerait tout avec les yeux que vous avez.
Et lui dit, arrêtez de me parler de mes yeux, vous allez me faire rougir. Ils arrivent place de l'Opéra. Elle leur indique l'immeuble où ils doivent arrêter la voiture.
Bien entendu, c'est un immeuble cossu du 19e de 5 étages en pierre.
Le chauffeur sort de voiture, leur ouvre la portière. Avant de descendre de voiture, elle lui dit « Merci, vous êtes gentil. Nous reverrons certainement. Vous semblez tellement sympathique. »
Et elle l'embrasse sur les lèvres.
Il sent contre lui son parfum et son corps. Elle sort de voiture. Il se dit, drôle de femme. Il la voit appuyée à l'interphone.
Oui,
c'est moi.
Bien, madame. Le déclic de la porte. La porte s'ouvre. Elle entre.
Grand hall d'entrée. En marbre, lustre cristal. Escalier de pierre recouvert d'un tapis rouge et à côté un ascenseur. Vieil ascenseur dans une cage de fer forgé, Versailles. Le type d'ascenseur que l'on trouve dans les vieux immeubles bourgeois.
Entre dans l'ascenseur, appuie sur le 5e étage.
Tout l'étage leur appartient, ce qui fait 2 appartements en un. Sur le palier, il y a un banc de pierre, une commode, 2 gros vases de plantes comme dans un jardin.
Elle va sonner à la porte de son appartement. La porte est ouverte. C'est une bonne jeune femme dans les 30 ans, mince, châtain, habillée en bonne. Bonjour madame. Bonjour. Elle entre. La bonne ferme la porte. Monsieur est là. Non madame, monsieur est sorti en même temps que vous, mais n'est pas revenu. Merci. Je vais à ma chambre. Préparez-moi un bain.
Bon, le décor. Puisque vous ne pouvez pas voir, malheureusement, parce que si vous pouviez voir ça, ça me donnerait moins de travail. Qu'est-ce que j'ai pu en décrire des décors et de toutes sortes? Vous pouvez inventer quelque chose qui fasse que vous voyez ce que je vois. Tiens, une idée. Elle n'est pas plus bête que toutes ces histoires d'ADN et de biotech. Bon, le décor. Eh bien, vous imaginez un grand appartement bourgeois, mais de la haute bourgeoisie, qui aurait du goût et beaucoup d'argent. Ce n'est pas le petit bourgeois de province. Lui, le petit bourgeois de province, ne peut pas se marier avec la noblesse. Or, cet appartement a 8 pièces, meubles d'époque, et du vrai, pas des copies. Louis XV. Tissu sur les murs, clair, blanc cassé, gris, rose, bleu. Parquet à la française, lustre de cristal. Les pièces sont très grandes, avec de hautes fenêtres. Il y a un hall d'entrée et un couloir large qui fait toute la longueur de l'appartement. Toutes les fenêtres donnent place de l'étoile. Si l'on veut voir une cérémonie à l'Arc de Triomphe, il suffit de se mettre à la fenêtre, n'importe laquelle.
Elle entre dans sa chambre. Se met à sa coiffeuse.
Pour enlever ses boucles d'oreilles et son bracelet. Puis, elle quitte ses chaussures. Et enlève sa robe du soir. En soie noire collante. Elle est nue dessous. Puis, elle va ouvrir la porte communicante qui donne dans sa salle de bain. Là, la baignoire est remplie d'eau chaude et de bain moussant. Ça sent la lavande. Elle entre dans son bain et se détend.
Une demi-heure plus tard, elle sort de sa salle de bain en chemise de nuit. Entre dans sa chambre et se couche.
Il n'a pas dû encore rentrer. Il a dû passer la soirée avec cette garce. Les draps sont froids. J'ai froid.
Elle éteint la lampe de chevet et s'endort. Le moindre bruit dans l'appartement. Deux heures plus tard, Florence se réveille d'un coup.
Elle éclaire, se lève. Va dans sa penderie, prend un tailleur jaune, quitte sa chemise de nuit, met le tailleur, met des chaussures à talons noirs hauts, va sa coiffeuse se donner un coup de peigne, prend son sac et sort de la chambre. En évitant de faire de bruit, elle sort de l'appartement.
Une fois dehors, elle marche. Elle voit arriver une voiture. C'est un taxi. Il lui fait signe de s'arrêter. Il s'est arrêté. Le taxi, elle entre. Où va-t-on?
Venez montant, rue Boyer.
Bien, ma petite dame, vous n'avez pas peur d'aller dans un endroit pareil la nuit?
Non.
C'est demain la Toussaint, la nuit des morts vivants. J'aime pas tellement cette fête, mais ça amuse les enfants. Bon, allons à Ménime. Il est tard, dites donc.
J'étais à une soirée.
Toute seule?
Oui, comme une grande. Mais on devait me raccompagner et ça ne s'est pas fait.
Le chauffeur roule dans les rues désertes. Il a vite fait de la mener rue Boyer.
Je vous arrête où?
À la maroquinerie, ce sera très bien.
Et il s'arrête où elle lui a dit. Elle paye et sort. La rue est lugubre. Les immeubles délabrés.
Et elle va rentrer dans une allée d'un immeuble sans âge de 3 étages, pas en très bon état.
L'allée est étroite, sale, l'escalier de pierre, usé. Elle monte jusqu'au deuxième étage.
Arrivée au deuxième étage, elle prend de son sac des clés pour ouvrir une porte. Une lumière jaune au plafond s'éclaire. Un jeune homme allongé sur un lit, en t-shirt blanc, slip gris, cigarette au bec dans les 25 ans, cheveux châtains, grand, mince, beau mec. C'est à cette heure-là, tu rentres. Elle s'avance. Et lui dit « Oui. » Le lit prend presque toute la pièce. Il y a un lavabo, une table avec un réchaud à essence, une chaise, une armoire. Sale, lugubre. Une fenêtre où l'on voit la rue. Elle s'assoit sur le rebord du lit. Quitte ses chaussures et s'allonge.
Elle s'est allongée à côté de lui. Lui, il lui demande « Qu'est-ce que tu as fait toute la nuit ?»«
J'étais chez une amie. J'ai passé la soirée à discuter, c'est tout. »
Il lui demande « Tu t'es habillée comme ça ? Comment ?»
Elle lui dit « Je ne sais pas pourquoi, je me suis habillée comme ça. J'ai dû boire. Tout ce dont je me souviens, c'est du taxi. Je l'ai appelé et je suis venue ici. C'est mon ami qui a dû me prêter son tailleur.
Et pourquoi aurait-elle fait ça ?
Parce qu'elle m'aime bien et qu'elle est très malheureuse. Son mari la trompe. Elle pleure tout le temps.
Elle n'a qu'à le quitter.
Elle ne peut pas. Elle l'aime. »
Il soupire et lui dit « Moi aussi je t'aime, mais j'ai du souci. Il me faut du fric, et vite. Tu en as ?
Non.
Tu n'as rien pris ?
Non, je ne peux pas. »
Il lui dit « Et qu'est-ce qu'on va faire alors ? » Elle lui dit
« Nous verrons bien. Une occasion se produira. »
Il lui dit « J'ai une idée. Le grand qui tient le café en bas, il est veuf et semble te trouver à sa convenance. Tu te maries avec lui et nous sommes pépères. »
Elle lui dit « Non, je ne peux pas. »
« Pourquoi ?»«
Parce que je ne l'aime pas. C'est un con qui croit tout connaître. »
Il lui dit « Eh bien, toi, tu lui montreras que tu es experte en quelque chose. » Et il se plaque sur elle. Elle sent son corps chaud et ferme, son sexe qui bande.
Elle lui dit « Fais vite, chérie, parce que je dois partir. »
« Pour aller où encore ? » ?»«
Mon ami a besoin de moi. » »«
Moi aussi, j'ai besoin de toi. » Il l'embrasse sur les lèvres et elle s'abandonne. Mais laissons-les s'amuser un moment. Nous les retrouverons après. Et si vous voulez savoir ce qu'ils font, vous n'avez qu'à vous aussi vous amuser un moment, mais pas trop longtemps, et laisser la radio en marche.
Elle se lève, s'habille, se donne un coup de peigne, elle lui dit « Faut que j'y aille, j'ai juste le temps. » Il lui dit
« Mais il est trop tôt. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ?»«
Je vais la réveiller. Elle ne peut pas se lever toute seule. »
Il lui demande
Elle est malade ?
Non, mais elle a besoin d'aide.
Il lui dit, et moi alors ? Elle se penche vers lui et lui dit,
toi, tu es à moi. Et puis, je reviendrai de suite.
Elle l'embrasse sur le front et sort. Il lui court après. Et lui crie, n'oublie pas d'apporter quelque chose.
Une fois dehors, le jour s'est levé. Ça sent l'humidité. Elle marche jusqu'au bout de la rue, qui est triste, tout aussi lugubre que la nuit. Arrivée au bout de la rue, elle hèle un taxi. Le taxi s'arrête, elle y va. Elle entre, il lui demande
« Où va-t-on ?»
Elle lui dit,
je ne sais plus, attendez.
Elle prend dans son sac une carte de visite. Elle lui dit,
place de l'étoile.
Bien, madame.
Le chauffeur de taxi l'a déposée au pied de l'immeuble. Cette fois, elle prend ses clés pour ouvrir la porte de l'immeuble. Elle va prendre l'ascenseur pour monter chez elle.
Jusqu'au cinquième étage. Ouvre la porte de son appartement et va dans sa chambre. Elle se déshabille. Lève ses vêtements à terre. Et se couche.
Thank you.
deux heures plus tard...
On a frappé à la porte. Ça la réveille.
Oui, entrez.
La porte s'ouvre. La lumière s'éclaire. Ce qui lui fait mal aux yeux. Un homme, grand, mince, à cheveux et fines moustaches grises, très élégant. Il fume une cigarette et en robe de chambre, en soie bordeaux, avec un pyjama gris clair en soie. Il lui dit,
ma chérie, il est tard. Ce n'est pas très convenable de rester au lit aussi tard.
Elle lui demande, mais quelle heure est-il?
11 heures. Vous êtes bien amusé hier au soir.
Oui, je crois. Je me souviens plus très bien. Ah oui, ce jeune Galien Diap, charmant jeune homme. Tu sais, le président du groupe Jeune Tout.
Oui, bien sûr. Tout le monde le connaît.
Elle lui demande.
Et toi, qu'as-tu fait?
Moi, j'étais au Jockey Club. Il y avait une soirée spéciale pour les anciens des grandes écoles. Nous étions entre hommes, bien entendu. C'était assez intéressant, mais comment dire, sec, très sec.
Elle lui dit, « Tu veux dire qu'il manquait de fantaisie ?»«
Exact, ma chérie. »«
C'est peut-être pour cela que tu as été voir ta maîtresse. »«
Mais je t'ai dit 100 fois que je n'avais pas de maîtresse. Quelle idée tu as ?»
Elle lui dit, « C'est-à-dire que j'ai l'impression de la sentir de partout. »
Elle se lève.
Elle est en chemise de nuit et va vers lui. Et lui dit,
si j'ai la certitude que tu as une maîtresse, je te tue.
Il lui dit,
tu es ridicule.
Et il sort de la chambre. Elle soupire et va dans la salle de bain prendre son bain. Chambre en peignoir blanc. La femme de chambre est là, elle lui dit,
en lui montrant le tailleur jaune sur une chaise. Dois-je faire dégraisser ce tailleur, madame?
Elle va vers le tailleur.
Je ne me souviens pas de cette tenue. Ce n'est pas à moi, ça. Brûlez-le.
Bien, madame, mais ça fait 5e fois que vous me dites de brûler. 5e tailleur. Elle lui dit nerveusement.
Et alors, j'y suis pour rien. Si, elle laisse ses vêtements dans ma chambre.
Allez, bien, madame. Et la bonne prend le tailleur et sort de la chambre.
Florence dit. Il est culotté tout de même. De mener ses maîtresses chez moi, dans ma chambre, et qu'elle laisse ses vêtements comme ça. Je n'en peux plus.
Elle va dans son placard, l'ouvre et prend un tailleur rouge. S'habille. Et une fois habillée, elle sort de la chambre. Pour aller au salon. Là, elle retrouve son mari qui lit son journal. Elle s'assoit pour prendre son petit déjeuner. Il lui demande, tu te sens bien ?
Oui, très bien. Et toi, avec ta maîtresse ?
Mais je n'ai pas de maîtresse. Je n'ai pas de maîtresse. Quelle maîtresse ?
Elle lui dit, ne mens pas. J'ai trouvé, ou plutôt la bonne a trouvé, un tailleur jaune dans ma chambre.
Tu es sûr qu'il n'était pas à toi ?
Non, tout à fait. Je déteste le jaune.
Il lui dit, eh bien, moi, non plus. Je n'aime pas. Je n'aime que les costumes gris.
Elle lui dit, pas d'humour, je t'en prie. Je ne veux plus de ta maîtresse dans ma chambre. Tu as compris ?
Il plie son journal. Elle lui dit, mais je te jure que mes maîtresses ne viennent pas dans ta chambre.
Oh, tu vois, tu viens de dire mes maîtresses. C'est la preuve que tu en as et que tu m'as menti tout à l'heure.
Il soupire et lui dit, dis c'est ça comme ça, et puis laisse-moi tranquille. Et il sort de la pièce. Elle termine son petit déjeuner. Et sort du salon. Dans le couloir, elle trouve la bonne et lui demande,
le tailleur, où est-il ?
Il est jeté, madame.
Très bien.
Et elle va dans le bureau de son mari. Prend le téléphone
Allô, je suis bien dans le groupe Jeune Tout.
Oui, madame. J'aimerais parler à monsieur Diab, s'il vous plaît. Vous êtes madame?
Je suis madame Florence Tonnes.
Bien, madame, je vais voir.
Elle attend un peu.
Mon Dieu, mon Dieu.
Madame, monsieur le président veut bien vous parler.
Elle fait,
allô ?
Galien lui fait, madame, vous désirez me parler ?
Oui, monsieur. Vous vous souvenez de moi ?
Oui, madame, on n'oublie pas une si jolie personne. Qu'avez-vous à me dire ?
Je suis désespérée. Mon mari me trompe jusqu'à dans ma chambre. J'ai besoin de parler d'un peu.
Galien lui dit, oui, mais je suis à mon travail, vous savez.
Bien sûr que je le sais, mais si nous pourrions parler tranquillement en tête à tête.
Il lui dit, pendant mes heures de travail, c'est un peu difficile. J'ai beaucoup de choses, de rendez-vous. Elle lui dit,
je sais, mais vous avez peut-être une pause déjeuner ou quelque chose comme ça.
Il lui déjeuner. Oui, bien sûr.
C'est à quelle heure ?
13h30.
Et vous mangez où ?
D'habitude, dans un petit restaurant, pas bien loin. J'y ai mon cabinet privé pour être tranquille. Elle lui dit.
Eh bien, ce sera parfait. Je vous attendrai devant votre siège.
Bien, à tout à l'heure. Au revoir, madame.
Au revoir.
Il est gêné et en même temps fier que cette belle femme l'ait appelé. Il se dit, oh, et puis, on verra bien.
23h45, il sort du siège et la trouve devant la porte. Elle est ravissante, en tailleur rouge. Il lui dit « Je m'excuse pour le retard, mais j'ai eu un appel téléphonique de dernière minute. » Elle lui dit
« Ça n'a aucune importance. Nous allons où ?»«
Là, juste en face. » Et ils y vont. C'est un restaurant. C'est un restaurant ultra chic qui a à l'étage des salons privés. Tout est en boiserie et velours bordeaux. La décoration fait assez 1900. Une fois entrés dans le restaurant, un maître d'hôtel vient vers eux.
Bonjour Monsieur Diap.
Bonjour Fernand. Aujourd'hui, je suis accompagné.
Je vois Monsieur.
Bonjour Madame.
Je vais vous conduire à votre salon.
Et ils suivent le maître d'hôtel jusqu'au premier étage. Ils suivent un long couloir.
Des chaises autour, un buffet, un canapé, des fleurs un peu partout, une fenêtre avec des rideaux qui donnent sur la rue. Ils vont s'asseoir l'un face de l'autre.
Le maître d'hôtel leur donne à chacun la carte des vins et les menus. Galien dit une salade verte, un steak au poivre, un gratin de chou-fleur et une tarte aux pommes.
Elle lui dit, eh bien moi la même chose.
Galien lui dit, vous n'êtes pas obligé. Elle lui répond,
mais ce que vous avez choisi est très bien.
Le maître d'hôtel leur demande,
et les vins?
Galien lui dit, un petit bourgogne.
Moi aussi.
Bien messieurs dames.
Et il quitte la pièce.
Galien lui demande « Alors, qu'avez-vous à me dire ?»
Elle lui dit « Une chose atroce. Mon mari a encore amené une femme dans ma chambre. »«
Comment le savez-vous ?»«
Elle a laissé son tailleur à terre. »
Galien sourit et lui dit
« Mais elle est partie comment ? Toute nue ?»
Elle lui dit
« Ne vous moquez pas de moi. Je ne sais pas comment elle est partie. »«
Mais vous savez comment elle est entrée ?»
C'est lui qui l'a fait entrer, bien entendu.
Et quand?
Ah, ça, je ne sais pas. Certainement lorsque j'étais absente.
On frappe à la porte. Entrez. C'est le serveur avec un chariot. Il va déposer le couvert sur la table. Met la salade sur la table avec la bouteille de vin. Puis laisse le chariot où il y a la suite du repas et quitte le salon.
Galien lui dit « Je ne comprends pas très bien votre histoire.
Comment un mari aussi intelligent peut-il faire venir chez lui et même mener sa maîtresse dans votre chambre ? Elle lui dit,
c'est peut-être pour faire de la peine, il a un côté sadique, vous savez.
Il lui dit, je ne sais rien. Je ne sais rien, je ne le connais pas.
Elle lui dit, si vous le connaissiez, il a l'air comme ça, mais c'est un drôle de type, disons un peu sec, collé monté, vieille France. Il cache bien son jeu.
Galien lui dit, vous ne semblez pas bien l'aimer. Elle soupire et lui dit,
malheureusement, si, je l'aime. Et il le sait bien. C'est pour cela qu'il me fait souffrir.
Quittez-le.
Et où irai-je, mon Dieu ?
Vous n'avez pas de famille ?
Oui, en Bourgogne. Mais je ne me vois pas vivre dans un château en pleine campagne.
Vous en voulez ?
Oui, merci.
Galien lui demande, et des amis ?
Elle lui dit, des amis, c'est bien pour s'amuser, pour les choses sérieuses.
Il lui dit, je ne vois pas. Divorcé, vous aurez une pension et continuerez à vivre à Paris. Elle lui dit,
pour cela, il me faudrait une preuve sûre.
Vous en avez une. Tout ce qui laisse comme trace ses maîtresses chez vous. Vous récupérez tout ça et allez voir un avocat ou un huissier.
Elle lui dit, non, j'aimerais mieux être vraiment sûr. Et pour cela, il faudrait que vous puissiez m'aider.
Comment ? Elle lui répond,
en faisant une enquête vous-même.
Il lui dit, c'est impossible, j'ai mon travail. Et je n'y ai pas le droit. Elle lui dit,
vous voulez vraiment pas m'aider ?
Je suis navré, pourtant j'aimerais faire quelque chose pour vous. Vous êtes si charmante, si délicieuse, elle sourit et lui dit.
Vous aussi, on se sent en confiance avec vous.
Je me sens en confiance.
Vous savez que ma sœur a toutes les photos de vous. Elle a vu tous vos films.
Galien lui dit, arrêtez, parlez pas comme ça. Je vais penser que j'ai une double vie. Je ne suis pas Leonardo DiCaprio, je suis Galien Diap.
Elle lui dit, je ne vois aucune différence.
Il lui dit, moi aussi.
Elle lui demande, alors qu'est-ce que vous faites ? Vous acceptez de faire une enquête ?
Galien lui dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, vraiment, non. Mais si vous voulez, je peux dire à une personne de faire une enquête discrète sur votre mari.
Merci.
Après le repas, ils sortent du restaurant.
Il lui dit, je dois vous quitter, j'ai à retourner à mon travail. et lui dit « Oui, bien sûr, vous me téléphonerez pour les résultats de l'enquête. »«
Oui, bien sûr, au revoir. » Elle l'embrasse et lui dit
« Vous êtes vraiment mignon. »
Et elle s'éloigne. Deux jours plus tard, Galien, dans son bureau.
Allô? J'aimerais, c'est que monsieur Danfort puisse venir à mon bureau. Oui, c'est urgent. Merci.
Entrez. C'est Monsieur Danfort. Vous avez demandé, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Danfort, venez vous asseoir. Bien.
Vous allez me rendre un service. Il faut me faire surveiller Monsieur Jules Tonnes. Je tiens à savoir ce qu'il fait et s'il a une maîtresse.
Bien, Monsieur le Président, au lieu de le surveiller comme ça, on pourrait lui mettre dans son cerveau un diffuseur vidéo radio. Comme ça, nous saurons tout ce qu'il fait et où il est sans le suivre.
Galien lui demande, mais comment le lui mettre?
Il pourrait avoir un petit accident de la circulation et on pourrait l'amener chez nous, endormi, ni vu ni connu. Un pansement sur la tête, il est tombé sur la tête et puis, pour enlever l'appareil, on le convoque à l'hôpital en lui disant que c'est pour lui enlever l'état grave.
Gaïen lui dit, ma foi, je vous fais confiance. Avec vous, ça se part dans des choses incroyables.
L'enfant lui dit, lorsqu'on a un problème, pourquoi pas nous servir de la science? Nous devons avoir le réflexe de dire, qu'est-ce que nos technologies peuvent faire pour nos problèmes, pour résoudre nos problèmes?
Galien lui dit, bien, nous verrons. Et nous verrons tout ce qu'il dit est fait. Alors, allez-y.
Bien, Monsieur le Président.
Danfort a donné l'ordre à des hommes de surveiller pendant deux jours Jules Tonnes. Les hommes dans une voiture notent l'heure de ses entrées et sorties. Et un matin, il sort de chez lui pour aller à son travail, Avant de prendre sa voiture au garage souterrain, il va acheter son journal lui-même à deux portes de chez lui. Il dit que c'est pour faire de l'exercice. C'est bon avant de rester assis toute la journée à son bureau. Puis, il va dans le garage souterrain de son immeuble. Il descend au garage par l'ascenseur qu'il fait descendre par une clé. Ce jour-là est entré dans l'ascenseur avec lui deux hommes grands, forts, cheveux châtains, costume gris. Un des hommes dit à Jules, « Nous aussi, nous allons au garage. » Ils sortent de l'ascenseur.
Jules se dirige vers son garage. Les deux hommes se dirigent vers une voiture. Ils entrent dedans. Ils mettent en route la voiture et foncent sur Jules. Jules court, il panique. La voiture le rattrape et l'accroche juste pour le faire tomber.
Vite, les deux hommes sortent de voiture. Un des deux a un masque à la main. Jules s'apprête à se relever, mais il a un peu mal au genou. Les deux hommes se penchent vers lui.
« Excusez-nous, on vous avait pas vu. »
Et ils se penchent sur lui. Un le maintient et l'autre lui met le masque à la figure. Un gars se dégage et Jules s'évanouit. Vite, les deux hommes le soulèvent et le mettent sur le siège arrière de la voiture.
« Prends-lui les clés pour sortir du garage. »
L'autre fouille dans la poche et trouve la clé. Il met la voiture en route. La voiture s'est arrêtée. Il ouvre le portail avec la clé. Et la voiture quitte le garage. Demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée devant la clinique Riquin. Jules est mis sur un brancard et on le mène dans la salle d'opération où tout est prêt. Il y a Riquin et toute son équipe qui sont complètement habillés et prêts à opérer.